Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, troisième épisode de notre série consacrée aux victimes comme figure politique avec Sandrine Lefranc. La fin du siècle dernier a vu apparaître une forme de justice originale consacrée sous le nom de justice transitionnelle. Celle-ci consiste en procès exemplaire, en commission vérité et réconciliation ou en programme de réparation, et elle a pour caractéristique de vouloir être une justice pour les victimes, objectif qu'elle n'atteint pas toujours, tant elle repose sur des présupposés peut-être discutables. C'est à ce travail de déconstruction que Sandrine Lefranc s'est attelée à travers des articles et des livres. Je pense notamment à « Politique du pardon » publié au PUF en 2002 et plus récemment « À quoi servent les politiques de mémoire » publié aux presses de Sciences Po avec Sarah Gainsburger. Alors, Sandrine Lefranc, bonsoir.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, s'il fallait expliquer à nos auditeurs ce que c'est que la justice transitionnelle, comment est-ce que vous la caractériseriez?
Alors, c'est une chose qui a été inventée assez récemment, elle a 20 ou 30 ans, et ça pourrait se raconter en contraste avec la justice pénale. C'est une autre manière de rendre justice qui s'intéresse moins aux délinquants, qui met de côté le juge et qui se concentre sur la victime et qui tente de reconnaître la douleur, la peine de la victime dans un espace public.
Sur les victimes d'ailleurs, parce que souvent elles sont très nombreuses.
Elles sont très nombreuses puisqu'on a affaire à des situations d'après-guerre, d'après-génocide, d'après-répression. Donc on a des victimes, parfois des populations entières de victimes, comme c'est le cas en Colombie. Hein. La population colombienne aujourd'hui, une personne sur six est considérée comme victime par le gouvernement. Donc des populations entières qui sont par ailleurs victimes des pires crimes. Des crimes internationaux.
Oui, des pires crimes, des violences qui sont extraordinairement cruelles et qui, à chaque fois, signalent ce qu'on pourrait appeler un effondrement de la communauté politique. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de la Colombie étant dans un état de guerre civile, plus ou moins ouvert depuis des décennies, et avec des victimes. Et alors là, on rencontre une première difficulté, c'est qu'en fait, on parle des victimes comme si elles formaient un groupe unique, mais elles ne forment pas un groupe unique.
C'est absolument ça. Et au fond, si je n'avais qu'une chose à dire, c'est cessons de considérer les victimes comme des figures homogènes qui portent toute la même souffrance et que l'on doit accueillir de la même manière, avec les yeux de la bienveillance et les outils de la thérapie. Les victimes, il faut d'abord se rappeler qu'elles sont des personnes différentes, qu'elles vivent des vies sociale ordinaire, qu'elles sont façonnées dans des conditions politiques particulières et donc les regarder d'un peu plus près qu'on ne le fait habituellement.
Oui, c'est-à-dire, elles sont victimes dans nos yeux. Notre regard risque de les réduire à leur souffrance, à être simplement des symboles de la cruauté qui nous impressionne nous-mêmes.
Absolument. La justice transitionnelle, c'est au fond la traduction internationale, globale, dans tous les pays du monde, portée par des acteurs internationaux et des organisations internationales, la traduction de notre compassion ordinaire. C'est-à-dire que nous avons un regard bienveillant sur des victimes qui sont de cette manière-là réduites à des personnes sans souffrance.
Oui, c'est plutôt bien la compassion, Sandrine Lefranc.
C'est une merveille la compassion. Mais rappelez-vous, Hannah Arendt qui dit que la compassion, quand on en fait une affaire générale et une affaire de politique, c'est de la pitié, c'est dégoûtant, c'est muet, ça condamne au mutisme. Et donc la compassion ne peut pas fonder, selon elle et selon d'autres, ce Revaux d'Allonne par exemple, ne peut en rien fonder un lien social correct.
Alors vous parlez à propos notamment de cette commission Vérité et Réconciliation qui par certains côtés est fondatrice, c'est pas la première d'ailleurs, vous le rappelez, c'est pas la première, mais celle qui a lieu en Afrique du Sud, sur laquelle vous avez travaillé, Sandrine Lefranc, en tant que politologue, elle a véritablement valeur de référence. Et vous avez intitulé un de vos articles d'ailleurs, Le Tribunal des Larmes, expression qui courait beaucoup à l'époque.
Absolument. Alors, Tribunal des Larmes, ou pour d'autres beaucoup plus sceptiques, Commission Kleenex. La Truth and Reconciliation Commission, Commission de Vérité et de Réconciliation Sud-Africaine, c'est une institution qui est mise en place en 1995. Et pendant 2 ans, elle va écouter les victimes. Elle va demander à ces victimes de raconter leurs souffrances. Alors, c'est Évidemment, un rituel très bienveillant, ça permet à des veuves, la plupart, pour la plupart des veuves noires, qui sont plutôt issues des ghettos que des quartiers bourgeois des villes sud-africaines, ça leur permet de raconter quelque chose, ça leur permet d'être là, dans un espace public, reconnu par une institution, et pas n'importe quelle institution, une institution avec des membres qui comptent, et notamment Desmond Tutu, qui est...
qui est une figure religieuse, hein. Ça c'est très intéressant, parce que c'est un état laïque, quoi. C'est un, l'Afrique du Sud, même sous la apartheid était un véritable régime politique organisé. D'ailleurs, la commission va avoir des commissions particulières sur le commerce, sur les juges, sur la presse. Quoi. C'est un travail de fond, un travail très, très, très profond sur la société sud-africaine.
Alors, les auditions institutionnelles que vous évoquez, elles ne sont pas centrales dans le travail de la commission. Ce qui est central, c'est d'une part le comité sur l'amnistie, qui va entendre les bourreaux, les agents de la violence, et d'autre part, et surtout, en tout cas pour l'international, ces auditions des victimes.
Pourquoi ils y viennent, les bureaux, devant une telle commission, Sandrine Lefranc ?
Parce qu'il est question d'obtenir une amnistie. Une amnistie qui est conditionnée par la confession. Alors là encore, je prends un terme religieux, mais il n'y a
oui,
pas
c'est ça.
D'être.
Alors là, il y a un problème de traduction, parce que la confession en anglais, c'est l'aveu. Par
c'est
leur
la
aveu.
Révélation exhaustive des
oui.
faits.
Oui,
il n'y a pas
ça.
De dimension religieuse, on ne leur demande pas de mettre un genou à terre, mais ils le font un peu. Et ils le font notamment pour se présenter eux aussi comme victimes. Donc vous voyez bien que le langage, là, il commence
ils
à être...
Ils se présentent comme victimes en Afrique du Sud, les agents de sécurité, celui qui raconte comment il étouffe les gens dans les commissariats, c'est quand même...
Benzienne,
voilà.
C'est celui-là.
Lui aussi qui prend une valeur paradigmatique d'ailleurs.
Absolument, policier du Cap qui est devenu célèbre depuis parce qu'il a fait une démonstration publique de la manière dont on étouffait un membre militant de l'ANC, c'était sa spécialité. Benzienne, dans cette ère du temps où on parle de victimes, où on se prend de compassion pour les victimes, il va effectivement, lors de son audition par le comité sur l'amnistie, se présenter comme une victime. Et sa psychologue va venir et va l'aider en ce sens. Oui, Benzienne prend des anxiolytiques, sa femme l'a quitté, on va le présenter comme tel. Donc c'est un langage qui devient ouvert, autorisé au bourreau aussi.
Alors, est-ce que cette compassion dont vous parlez, Sandrine Lefranc, disqualifie tout le processus ou est-ce qu'il s'agit simplement des limites que touche la justice transitionnelle ?
Alors, le processus tout entier ne devient pas négatif de ce fait, c'est évident. Il y a eu quelque chose qui en est ressorti, sans doute pas la réconciliation qu'on attend. Par contre, ça n'est pas juste un effet pervers et hasardeux de ce dispositif. C'est compris dans le dispositif. C'est-à-dire que quand en Afrique du Sud, on veut essayer de raconter l'histoire de l'Afrique du Sud à partir de la catégorie victime de violations graves des droits de l'homme, on fait cela. On invente de la symétrie, et notamment, on invente de la symétrie entre le bourreau et la victime dès lors qu'ils partagent cette même souffrance ou cette douleur physique de victime de crimes graves. Donc, on les met sur un pied d'égalité.
Je me mets à la place d'un Sud-Africain. C'est pas la même chose de savoir ce que savaient d'ailleurs tous les Sud-Africains, qu'il y avait des exactions commises dans les commissariats, qu'il y avait des exécutions sommaires aussi bien sur le territoire qu'au Mozambique voisin. Mais de l'entendre de la bouche même de celui qui l'a commis, ça a une puissance symbolique, morale supérieure.
Alors, celui qui l'a commis est moins, enfin, son discours est moins rendu public que le discours des victimes. Le comité sur l'amnistie fonctionnait à huis clos, c'était plus discret, c'était moins ouvert, moins médiatisé. Alors évidemment, oui, ça consacre une vérité et puis ça consacre aussi un début d'exercice de repentir public et collectif. Mais dans le même temps, par exemple, quand on va regarder ce qu'est la connaissance de l'histoire sud-africaine, quelques mois ou quelques années après le travail de la commission, on se rend compte que les effets sont plus ambivalents. Pourquoi ? Parce que quand un homme prend la parole et il dit « j'ai commis ceci et j'ai encore commis cela », il le fait en tant que personne. Et donc, ce que l'on constate dans les très nombreuses études qui ont été réalisées en Afrique du Sud, c'est que ça a un effet de reconnaissance des crimes commis, mais dans le même temps, ça a un effet d'individualisation des crimes commis.
Ah oui, mais ça, vous mettez le doigt, Sandrine Lefranc, sur le vice congénital. C'est pas un vice, sur le paradoxe, sur l'ambiguïté fondamentale de cette justice des crimes de guerre et des crimes de l'histoire, c'est que finalement on demande à la justice de traiter un problème politique, c'est un problème institutionnel. Et ce monsieur Benzienne, qui a commis des choses épouvantables, c'était peut-être pas un sadique dans la vie ordinaire, quoi. Tout ce qu'on a su des nazis, même alors encore de manière plus intéressante encore sur Duc au tribunal du Cambodge.
Effectivement, le problème là, c'est comment on rend justice pour des crimes politique, dès lors que la justice pénale, comme les formes de justice transitionnelle, vont plutôt s'intéresser à la faute individuelle.
Et elles ne peuvent pas faire autrement, parce que c'est ce qu'on leur demande.
Elles ne peuvent pas faire
autrement. C'est la seule chose qu'elles sachent faire, à vrai dire.
C'est tout à fait vrai. Mais appliqué aux victimes, ça a des conséquences un petit peu différentes. Et par exemple, une victime qui se présente devant les membres de la commission, devant Desmond Tutu, va s'entendre dire « Bonjour madame », ce sont souvent des femmes, « Bonjour madame, racontez-nous ce qu'est votre vie depuis la perte de votre proche, racontez-nous vos nuits difficiles, racontez-nous vos cauchemars, dites-nous si vous êtes allé voir un psychologue ». Ce que je veux dire par là, c'est que, et ça n'est pas une nécessité dans une procédure judiciaire, le fait d'appeler les victimes victimes et seulement victimes, ça va les amener doucement vers un registre qui est un registre de la thérapie, de la compassion. Et lorsque les victimes vont entreprendre d'exprimer une colère, on va leur demander de laisser cette colère de côté. Pourquoi ? Parce que les qualifications politiques, le fait que le criminel appartenait à tel service de sécurité ou à tel autre parti d'opposition, doit être écarté dans un dispositif qui est pensé comme un dispositif de reconnaissance des victimes.
C'est-à-dire que si je comprends bien, si je vous entends bien, Sandrine Lefranc, ça veut dire que il y a un travail de construction de la victime, mais que cet, l'étalon conceptuel de la victime, c'est une victime de droit commun. C'est une victime qui a subi une violence, mais une violence de droit commun. Or là, cette transposition continue de poser problème.
Absolument. On ne peut pas parler politique dans cet espace-là, et on ne peut pas parler politique à la fois parce qu'on utilise ces outils qui sont des outils d'individualisation, mais aussi parce qu'on a affaire à une situation politique compliquée et qu'on doit construire un compromis. La justice transitionnelle s'inscrit dans un ensemble de politiques gouvernementales qui doit insister sur le compromis, ce qui est parfaitement raisonnable.
Hein. Et on ne voit pas comment ça serait possible autrement.
C'est possible autrement quelques années plus tard, c'est-à-dire qu'on peut à nouveau autoriser la colère dans l'espace public, on peut à nouveau autoriser la dénonciation politique. Et d'ailleurs, ça arrive. Ça n'a pas forcément de bons effets non plus, hein, une forme de justice politique ordinaire. Mais il n'empêche qu'il y a des caractéristiques propres à ce processus.
Alors ça vient peut-être aussi du mauvais étalon de Nuremberg. Parce qu'à Nuremberg, on est dans des conditions absolument exceptionnelles. Pourquoi ? La guerre est finie. On a tous les documents disponibles, il y a un certain nombre qui ont disparu, ça on le sait. On a tous les hommes dans le box, sauf ceux qui se sont suicidés. Et il y a une réprobation morale unanime contre le nazisme. Et pas pour les raisons, d'ailleurs, les mêmes raisons qu'aujourd'hui, surtout le crime contre la paix. Mais en réalité, dans tous les terrains que vous avez étudiés, Sandrine Lefranc, notamment en Amérique du Sud ou en Asie, ça n'arrive jamais, ça ne se reproduira jamais. La politique continue. Il y a toujours une guérilla et ce qui est le cas en Colombie d'ailleurs. Hein, il y a toujours une guérilla. Donc il faut faire sous pression politique et non pas en inventant, comme en 45, une justice idéale sortie du chapeau.
Absolument. On n'a pas de vainqueur et on n'a pas de vaincu dans ces situations-là. La justice transitionnelle, c'est exactement cette justice qui doit faire sans rupture nette, sans révolution, sans statut de vainqueur. Dans d'autres pays, on s'autorise d'autres pratiques. L'Angola, par exemple, est un pays qui ne pratique pas la justice transitionnelle. C'est un pays qui s'autorise...
Mais parce qu'il y a une victoire aussi. Il y a une victoire. Dos Santos a gagné contre...
Ce sont des processus sans victoire. Du coup, la victime est incitée fortement, avec bienveillance, mais vigoureusement, à prendre sa place dans ce discours-là.
C'est-à-dire que vous reprochez cette manière de construire une figure, c'est exactement le thème de notre semaine sur la victime, de construire une figure, et une figure qui ne va pas, qui ne correspond pas nécessairement à la réalité, mais ça c'est le propre de toute construction sociale, et surtout qui peut... empêcher la personne de dire tout ce qu'elle a à dire et notamment de repolitiser et de resituer sur un niveau politique sa souffrance.
Oui, on lui demande d'entrer tout entier dans le rôle de la victime. Mais au fond, ce qui se passe pour la justice transitionnelle, c'est aussi très proche de notre manière à nous, ici, à Paris ou ailleurs, de penser le traumatisme. C'est-à-dire qu'on a, y compris pour les attentats par exemple, on a une manière de penser... qu'une victime, c'est nécessairement une créature qui, en bloc, est habitée par le traumatisme et la souffrance. C'est-à-dire qu'on ne veut pas la voir comme ce qu'elle est, c'est-à-dire une personne qui continue à vivre une vie
ordinaire. C'est pas un peu caricatural quand on voit l'apparition de ce concept de résilience. La résilience, c'est précisément la manière de nommer des gens qui ont subi des choses épouvantables et qui sont pas victimes psychologiquement.
Alors, c'est tout à fait ça, mais ça, on a tendance à l'oublier. Dans la justice transitionnelle, la manière de définir la victime est tout entière une manière construite, orientée vers la souffrance. Le résilient, celui qui, par exemple, devant la Commission de vérité et de réconciliation sud-africaine, va refuser d'évoquer ses nuits difficiles, va tendre un papier, va lire son texte, va dire sa colère, cette personne-là n'est pas une bonne victime. Elle n'entre pas dans le rôle.
Et il se trouve que j'ai assisté à une des séances équité-réconciliation marocaine. Mm-hmm. C'était très intéressant parce que des militants du Croissant Noir, je me souviens d'un vieux monsieur disant j'ai été torturé, mais c'est pas le problème. Et c'était pour un occidental comme moi, c'était tout à fait surprenant. C'est pas le problème. Sous-entendu, ma souffrance n'est pas le problème. Le problème, c'est pourquoi le roi nous a fait ça à nous, etc., etc.
C'est tout à fait ça. C'est exactement ce type d'interaction. C'est-à-dire qu'on voit des victimes qui acceptent d'entrer dans le rôle des victimes parce qu'elles voient bien là aussi qu'on les regarde avec bienveillance.
Parce que c'est quand même, Sandrine Lefranc, c'est très occidental, ça, mais c'est un fait. C'est pas forcément d'ailleurs.
Moi, je sais pas si c'est très occidental. Je pense qu'à peu près partout, on bataille avec des rôles différents, mais en permanence, et notamment en Afrique du Sud, on a des victimes qui rappellent, soit à leur juge, soit à la personne qui les écoute avec bienveillance, qu'elles sont autre chose que ça, et que ce qu'il s'agit de juger se raconte de diverses manières. Et on a, par exemple, des victimes qui vont vous raconter comment, au fond, ce qui leur pèse, c'est ce qui se passe aujourd'hui, lorsqu'elles doivent marcher pendant des heures le long des routes pour rejoindre la ville, lorsqu'elles ont du mal à scolariser leurs enfants. Donc on a constamment une victime qui est ramenée à un rôle unique, alors qu'elle passe son temps à rappeler qu'elle a d'autres dimensions personnelles.
Alors, là, Sandrine Lefranc, on se cantonne, dans cette question immense de la justice transitionnelle, on se cantonne à la construction de la victime. Mais il y a aussi un envoi dans le rôle, et notamment dans cette dimension psychologique, cette idée que témoigner va faire du bien, va soulager. Il y a tout un rôle qui est imposé, dites-vous, à la victime.
Oui, la bonne victime se doit de parler. Et ça, on sait à quel point ça a des effets pervers quand on s'intéresse, d'autres le font, certains de mes collègues le font, aux femmes violées. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'imposer dans des espaces comme une commission de vérité ou devant un juge, par exemple, un juge international, qu'est-ce que c'est que d'imposer à une femme ou à un homme violé le récit de ces événements-là et ne pas tenir compte de l'effet social que cela va avoir.
C'est rare quand même, non, Sandrine Lefranc, qu'une femme raconte son viol en public devant...
J'ai quantité de collègues qui ont travaillé... raconter le viol, non pas forcément, mais l'évoquer et l'admettre, et donc apparaître comme une femme violée. C'est notamment le cas à la Cour pénale internationale ou devant le Tribunal pénal international
pour le Rwanda. Oui, il y a une contradiction, la contradiction entre la nécessité de la preuve, il faut qu'on ait des éléments.
Mais on peut le faire à huis clos,
oui,
Antoine.
Mais ça se fait souvent, non ?
Ça se fait sans doute souvent, mais ça a des effets massifs quand on n'a pas tout à fait maîtrisé ce que cela pouvait représenter pour une femme ou pour un homme de revenir dans son village ou dans sa ville,
oui,
avec ce rôle-là.
On a reçu la fois dernière le docteur Rima Rukungu qui nous a raconté effectivement sa manière de traiter les femmes qui avaient été violées. Les femmes ou les hommes, vous avez raison, Sandrine Lefranc, d'insister là-dessus. Les femmes ou les hommes. Mm-hmm. Alors, y a cette idée, cette fameuse idée... du deuil, cette fameuse idée de la thérapie. Et si on creuse un peu, cette idée, c'est que de la thérapie individuelle va naître une thérapie collective. Mmh. Les deux, le collectif étant pensé sur le mode d'une psychologie subjective.
Oui, c'est l'effet cathartique,
oui,
attendu de ces processus-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on attend de l'émotion des victimes qui s'expriment devant le public, parfois devant les caméras de télévision, qu'ils viennent réveiller quelque chose dans le regard des spectateurs. Et on attend de ces processus-là, et c'est pour ça qu'on conduit les victimes à emprunter ce registre émotionnel. On attend de ce processus-là, de ce récit-là, un effet de communion sur l'ensemble du pays. C'est-à-dire qu'on attend de ces processus de récit par les victimes de leur souffrance un partage des récits, une histoire commune et donc une nouvelle unité nationale.
Mais ça, c'est pas complètement faux.
C'est pas complètement faux, mais c'est assez largement faux quand même. Mes amis les sociologues ou mes amis les anthropologues, je pense à Marie Douglas ou à Nicolas Mario, ont montré qu'on avait quand même une fâcheuse tendance à penser que, alors de fait, quand on écoute une victime, la compassion vient. Mais quand on écoute 30 victimes, la compassion peut venir, puis s'évanouir, s'affadir. Hein. On peut se durcir aussi quand on entend quantité de témoignages. Et puis surtout... penser qu'à partir de ce moment d'émotion, on va garder dans son cœur et dans sa tête le récit, qu'on va garder les principes communs, c'est sans doute aller beaucoup trop loin.
Mais alors Sandrine Lefranc, on pourrait vous répondre que ce qui caractérise cette justice traditionnelle, c'est qu'elle est mise en scène. Elle est très largement mise en scène, et mise en scène d'ailleurs de manière originale, d'une manière qui ne correspond pas au rituel de judiciaire classique. Et est-ce qu'il n'y a pas une vertu propre à la scène ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une fonction symbolique propre à la mise en scène qui fait que, par exemple, si on pense au procès à Eichmann, ou on pense à la commission sud-africaine, on peut penser à d'autres exemples, Nuremberg, bien sûr, Nuremberg dans lequel le palais de justice se visite toujours. Est-ce qu'il n'y a pas une manière de faire époque making, de couper le temps, excusez-moi de le dire en anglais, de couper le temps, de créer un événement qui va montrer qu'après, plus rien ne sera comme avant, qu'on a changé. Et ça, c'est au-delà des personnes. Ça, c'est dans la mise en scène officielle que ça se passe.
Absolument. Et d'ailleurs, je vous renverrai vers les écrits d'Antoine Garapon sur cette question, mais appliquée à la justice. Évidemment. Évidemment que que cette mise en scène, elle est importante, que le fait, par exemple, qu'un Desmond Tutu dans sa robe pourpre regarde les victimes, leur adresse la parole, que des bougies soient allumées, que des chansons soient chantées, tout cela est décisif. Alors, est-ce qu'on doit nécessairement en attendre un effet de renouveau et de rupture? Ça, j'en suis moins certaine.
Alors, c'est ce qui est recherché, c'est pas forcément ce qui est atteint.
C'est ça, c'est ce qui est recherché, et les victimes ne sont pas toujours dupes. Elles savent bien que dans ce même moment, les choses continuent, que le pouvoir reste exactement au même endroit, que l'eau potable n'arrive toujours pas dans les ghettos.
Le pouvoir reste au même endroit, en Afrique du Sud, non. Le pouvoir est quand même passé, formellement, institutionnellement, il passe aux mains du peuple, et il se trouve être majoritairement noir.
Alors, pas tout à fait aux mains du peuple, aux mains d'une nouvelle élite qui s'entend sur la base d'un langage. Effectivement, oui, je vois bien qu'on peut ne pas en entendre cela. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le renouveau provoqué par la justice transitionnelle, c'est aussi quelque chose qui permet de justifier la continuité politique, et notamment la collusion politique. Vous avez cité l'exemple du Maroc, c'est un très bel exemple. L'instance équité et réconciliation, elle se met en place au moment même où rien n'est changé dans la composition de l'administration, notamment de sécurité.
Ma femme, c'est une pompe, une hécatombe, quand elle passe dans ton monde, tous les gars tombent. Ma femme, c'est de la cam, c'est de la coke en kilogramme, elle est au top du palmarès, elle a fait péter vos diagrammes. À côté les autres, elles ont des tronches de gorille, y'a les femmes et y'a la mienne, allégorie hors catégorie. C'est pas la peine d'essayer de la guettera, elle en a rien à faire du vermicelle derrière ta guette bras. Accro, je suis à cran, c'est la muse de mes écrits, elle a transpercé l'écran, c'est un diamant dans son écrin. Une femme, une vraie de vraie, regarde comme elle est gaulée. J'aime pas la voir partir, mais j'adore la voir s'en aller. Je l'entoure de mes bras, ma beauté, ma seule princesse. Jusqu'au bout du monde, je me battrai pour que jamais les trains ne cessent. Regarde sa cambrure, ses seins qui foutent le faya. Je les pousserai baie de tous les saints. Salvador de Paya, de tous les tons du ciel, c'est le cadeau du plus offrant. Ma femme, elle est trop belle, regarde sa peau couleur safran. Ma femme, elle déclenche les ambulances et leurs sirènes. Si le monde était beauté, tu vivrais sous son règne. Son parfum est une ivresse qui te rend sous l'ami. Elle est classe comme une négresse et dangereuse comme un tsunami. Indépendante est ma femme, l'intelligence incarnée. C'est la reine de Saba, c'est Cléopâtre incarnée. Ma femme, c'est de la foudre, l'orage, les cataclysmes. C'est ta foi, ta religion, l'abjuration des hommes d'église. C'est la belle fille que je présente à ma mama. J'en suis sûr que c'est la bonne dans les artères ou le magma. Je lui ferai des gosses, des bambins, une flopée de mômes, parce qu'il y a la guerre sur la terre.
France Culture, Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec Sandrine Lefranc qui a choisi de nous réveiller ce soir.
Absolument, et de vous amener un sourire inattendu, Antoine Garapon, puisque vous vous demandez bien pourquoi j'ai demandé à ce que cette chanson soit écoutée. Cette chanson, c'est une chanson de Gaël Faye. Gaël Faye, c'est quelqu'un que j'ai croisé dans certains tribunaux à Paris, hein, qui jugeait des génocidaires rwandais. C'est quelqu'un qui a écrit Petit Pays. Et il me semblait, outre la dédicace à ma fille, si vous me permettez, il me semblait qu'il était important de montrer que dans un même album par ailleurs que j'aime sur le plan musical, on peut trouver une évocation directe du génocide des Tutsis au Rwanda, et dans le même temps quelque chose qui ressemble quand même assez à un cri de joie. Voilà, je voulais juste rappeler que la victime, ou en tout cas celui dont on attendait qu'il soutienne le rôle de la victime, pouvait avoir diverses expressions d'émotion.
Un cri de joie ou un cri de vie?
Un cri de vie, c'est ça, un cri de vie, un cri de joie, une vie joyeuse en l'occurrence. Hein, là.
C'est ça, mais c'est intéressant parce que c'est ce que nous a dit à ce micro il y a quelques semaines, justement, le procureur, celui qui était procureur à Kigali et qui disait la vraie réponse pour nous qui avons subi des torts épouvantables, quoi, des violences épouvantables, eh bien, c'est de renaître et c'est de renouer avec la joie de vivre, avec la vie tout court.
C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui me semble devoir être rappelé. Cessons de regarder les victimes, cessons aussi de regarder les politiques que nous devons aux victimes uniquement sous l'angle de la tristesse, de l'œil empreint de compassion, de l'œil larmoyant. Destiné aux pauvres, aux miséreux et à la victime.
Qui peut être aussi une autre forme de dégradation.
Ça s'appelle du misérabilisme dans ma discipline. C'est-à-dire, c'est une volonté de ne voir la victime que dans un rôle unique qui l'empêche tout simplement de continuer sa vie. Moi, les victimes que j'ai croisées, c'était des victimes politisées souvent, donc des victimes qui par ailleurs pouvaient s'esclaffer et avoir des moments de grande joie. J'ai aussi croisé des victimes dans les procès, autour des procès, qui, au moment où je les croisais, revenaient d'un magasin où elles étaient allées s'acheter une paire de chaussures. Je pense qu'il est important de rappeler qu'elles ont des vies qui continuent par ailleurs et de ne pas les enfermer dans ces rôles-là.
Mais alors, je vais retourner ma question, Sandrine Lefranc. Est-ce que vous pensez que cela peut servir à quelque chose, la justice transitionnelle, cette manière de marquer une société, alors par une médiatisation, par une mise en scène, par la convocation de plusieurs partis, mais qui ont cette caractéristique, ce sont des représentants, ce sont des parties collectives à la différence d'un procès ordinaire.
Alors la justice transitionnelle, elle a très clairement un effet positif qui est un effet pragmatique, c'est-à-dire qu'elle permet de continuer de fonctionner politiquement, qu'elle apporte une certaine stabilité, qu'elle permet aussi un juste équilibre, ou en tout cas un juste équilibre dans le moment, entre le fait qu'on ne peut pas couper la tête de tous les bourreaux et que dans le même temps, on doit continuer à vivre. Elle a un autre effet intéressant, la justice transitionnelle, en reconnaissant les victimes, alors en leur imposant un cadre d'expression, oui. En les reconnaissant, elle leur permet, quelques années plus tard, de parler autrement.
Mais alors, vous êtes sociologue, politologue, Sandrine Lefranc. Et donc, on est dans la construction d'un rôle social. Et cette construction d'un rôle social, elle permet d'abord d'épouser un rôle et elle permet de s'en détacher. Les deux choses étant absolument indissociables. C'est-à-dire que ça permet d'être victime un moment, puis après de se dire, oui, mais je suis beaucoup d'autres choses que cela.
Alors, ça le leur permet. Je ne sais pas si la politique le leur permet. Elles se le permettent.
C'est ça. Elles se le permettent, tout à fait.
Oui. Elles se le permettent, mais elles ont quand même constamment, lorsqu'elles entrent dans un espace public, l'obligation, ou en tout cas de fortes incitation à entrer dans ce rôle homogène, ce rôle de victime. Mais très clairement, elles se le permettent et elles se permettent toujours de renvoyer à l'expéditeur, à ce gouvernement qui veut de la réconciliation, ces demandes de paroles victimaires.
Alors, est-ce que finalement la rhétorique thérapeutique de la justice transitionnelle ne marche pas très bien, ou plus exactement, c'est très difficile à mesurer. Est-ce que cette dimension de refondation, Sandrine Lefranc, de refondation d'une communauté politique, qui est un des objectifs aussi de la justice transitionnelle, c'est-à-dire on va fonder une nouvelle Afrique du Sud. Alors oui, il y aura de nouvelles élites, mais on va refonder quelque chose. Est-ce que cela, avec la distance et avec toutes les études que vous avez consultées, votre propre terrain, est-ce qu'on peut dire que cela marche ?
Je ne suis pas sûre qu'on puisse attendre une quelconque refondation d'une communauté politique. C'est-à-dire que la justice transitionnelle, elle permet, c'est ça. La justice transitionnelle, elle gèle à un moment un état des relations. Elle permet donc que cela tienne. Elle permet que cela tienne. Et à partir de là, la vie ordinaire reprendra son cours. Les rapports se redistribueront, ils se redéfiniront. Donc, au fond, ça n'est pas une refondation. Il n'y a aucun moment au cours duquel on coupe à la serpe une communauté politique et on en fait naître une autre, c'est un fantasme en grande partie. La continuité, elle est dominante
en sciences
politiques.
Bien sûr, mais peut-être que l'extraordinaire permet le retour à l'ordinaire.
Je ne suis pas sûre que ce soit de l'extraordinaire. C'est-à-dire que c'est nous qui le percevons comme de l'extraordinaire. Mais une victime vous racontera autrement ce qu'elle perçoit de ces rituels-là.
Par exemple, reprenons l'exemple marocain. Beaucoup de Marocains disent... Aujourd'hui, ça n'a pas changé grand-chose, vous avez raison, et ça n'a pas touché la monarchie, et dans le fond, ça a peut-être sauvé la monarchie. Mais en revanche, on peut parler, ça a libéré la parole. Aujourd'hui, on peut parler, y compris en famille, au bistrot, etc. On peut parler politique, on peut parler du passé, on peut dire des choses dures, ce que l'on ne pouvait pas s'autoriser auparavant.
Alors, je ne suis pas sûre que ce soit le cas partout, mais vous avez tout de même tout à fait raison. On peut parler avec un effet de transformation plus immédiat, et l'exemple marocain est un bon exemple, c'est aussi un moment où, en faisant accepter une certaine part de continuité, le gouvernement va aussi introduire un changement et notamment une ouverture à la scène politique. La justice transitionnelle, c'est au fond un merveilleux moyen, une très bonne rhétorique pour, parce que chacun endosse ce rôle de victime, autoriser l'entrée de nouveaux venus dans la scène politique, ceux qui étaient hier les subversifs.
Et des nouveaux venus, Sandrine Lefranc, dans l'écriture de l'histoire. Ça, c'est un sujet sur lequel vous êtes beaucoup exprimé, mais ça aussi, c'est quand même très important. C'est-à-dire, on peut écrire, c'est l'équivalent dans les pays du discours de Philadelphie, discours d'Obama, qui était un discours particulièrement puissant, me semble-t-il, parce qu'il dit, moi, je vais parler de l'Amérique, celle qui n'a pas réussi, mais celle au détriment desquelles s'est fait le rêve américain.
Oui, effectivement, la figure de la victime, et notamment cette figure de la victime assez astucieuse pour être victime quand elle le souhaite et retourner la parole attendue contre son envoyeur, la figure de la victime, elle autorise une autre manière d'écrire l'histoire. Et d'ailleurs, nos historiens l'ont bien compris, puisqu'ils détestent ce type d'écriture par les victimes de leur histoire. Je pense à Pierre Nora qui évoque l'émiettement de l'unité nationale. Je pense à Todorov qui parle surtout des concurrences victimaires. Donc il y a quand même une vraie difficulté de la part des historiens à supporter cela, ce que je comprends bien, puisque moi aussi j'essaie de travailler scientifiquement. Mais néanmoins, ça a permis, ça a ouvert, ça a donné une légitimité nouvelle à ces récits, à ces vérités subjectives sur l'histoire.
Vous avez dit en passant tout à l'heure, Sandrine Lefranc, quelque chose qui attire mon attention, parce qu'aujourd'hui où on découvre finalement cette pluralité de voix qui constitue une démocratie, il y a la voix des femmes. Et il y a le féminisme, on parle d'écoféminisme, c'est-à-dire cette perception particulière qu'ont les femmes de certains problèmes. Et vous notiez tout à fait à juste titre que dans ces vérités, dans ces instances vérité et réconciliation, dans la justice transitionnelle, il y a énormément de femmes.
Oui.
Énormément de femmes. Et est-ce que vous faites le lien entre le, non pas le combat de ces femmes, mais entre la visibilité de ces femmes dans une société où souvent elles n'avaient pas d'image, où elles n'avaient pas de présence en dehors de l'espace domestique? Est-ce que vous y voyez une veine, un thème de réflexion particulier sur le front?
Alors c'est une caractéristique majeure de ces processus de justice transitionnelle, mais ça nous renvoie à un passé plus ancien, hein, c'est les Erinies et les Euménides,
oui, oui.
C'est plus simplement la figure de la pleureuse dans certaines sociétés antiques. C'est-à-dire que c'est un rôle qui est au fond compatible avec un ordre conservateur. C'est un rôle qui est souvent dévolu aux femmes.
Vous êtes un peu dur là,
non,
quand même.
Non, laissez-moi venir, Antoine Garapon. Oui. On attend d'elle qu'elle pleure. C'est un rôle traditionnel. C'était le cas dans la Grèce antique. Relisons ensemble Nicole Leroux. Elle le dit très bien.
La cité endeuillée.
Donc voilà, la femme est celle qui entretient la mémoire. C'est celle qui pleure la mort de son fils ou de son mari. C'est celle qui parfois.
Mais c'est aussi la Gorgone. C'est celle qui fait peur.
Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que de fait, on demande à ses victimes de tenir une parole assez douce, une parole de mère endeuillée. On leur demande, et certaines refusent, les mères de la place de Mai, par exemple, en Argentine, mais on leur demande quand même.
Les femmes en noir de Srebrenica.
C'est ça. On leur demande de tenir ce discours doux sur voilà la perte qui m'affecte et voilà mes larmes versées devant vous. Et dans le même temps, parfois, elles n'en font qu'à leur tête. C'est-à-dire que parfois, elles en font le support d'une colère, elles en font le début d'un rôle politique. Et
ah,
ça,
voilà.
C'est intéressant.
Alors, est-ce que ce rôle est durable? Est-ce que dans les terrains que vous avez étudiés, est-ce que effectivement on voit une transformation dans la présence du genre et des femmes dans la vie politique?
Alors je pourrais vous citer des travaux de collègues sur le Pérou qui vont vous raconter comment au fond c'est tout à fait compatible avec la conservation des cadres traditionnels. C'est tout à fait compatible, par exemple, cette difficulté à raconter le viol, cette difficulté à retrouver sa place dans une communauté. Certaines de mes collègues vont dire au fond ça ne change pas grand-chose. Ce que je constate moi, c'est que d'une certaine manière, ça vient entériner un rôle politique des femmes qui souvent étaient préexistants. En Afrique du Sud, elles étaient militantes.
C'est ça. Oui, alors ce que disait le docteur Rukungu, c'est qu'elle dit, et elle nous expliquait que ça fait exister le viol comme problème, qui était totalement refoulé, était refoulé à ce point que les langues africaines pratiquées dans les Kivus ne comportaient pas de nom pour le désigner, qu'il fallait utiliser le terme en swahili. C'est quand même très important, parce que la nomination, on le sait bien, c'est la première chose dans une société, on ne peut parler de ce qui est nommable, le reste est innommable.
Avec des effets compliqués pour les femmes sur le moment, c'est-à-dire qu'elles portent du coup ce nouveau nom de viol, mais effectivement avec des effets plus libérateurs et notamment plus libérateur sur les catégories du droit. Au fond, ça renvoie à notre propre histoire. Le nom de victime, le mot de victime, il est très étroitement associé aux mobilisations féministes aussi. La reconnaissance de la victime, c'est aussi un travail pour pointer le viol comme quelque chose qui n'a pas été mérité parce que je portais une jupe courte, mais comme quelque chose qui fait de moi une victime. On est en permanence dans un paradoxe. On est à la fois dans un mot qui vous dit « fais-toi douce », tais-toi, parle de ta douleur et ne parle que de ça et surtout n'exprime pas ta colère. Et dans le même temps, on autorise une parole de colère et on autorise la reconnaissance publique, dans l'espace public, de violences qui jusqu'alors n'étaient pas vues, qu'on ne voulait pas voir.
Et dans ce sens-là, Sandrine Lefranc, la justice transitionnelle, elle opère quelque chose, pas forcément ce qu'elle souhaitait dire, mais elle opère quelque chose.
Elle a des effets qui sont, alors si vous voulez, vous me voulez plus positive, Antoine Garapin.
Non.
Elle a évidemment des effets vertueux, tout simplement parce que, et certains le disent de manière plus large, elle invente une forme de délibération publique. Des gens qui, jusque-là, je suis en train de plagier Desmond Tutu sans m'en rendre compte, des gens qui jusque-là étaient traités comme des chiens ont enfin une parole dans l'espace public,
oui,
ça a un effet.
Oui, mais moi ce que je vois, c'est que l'effondrement d'une guerre civile, l'effondrement qu'on a vu au Liban, qu'on voit pratiquement sur tous les théâtres, c'est un effondrement de l'autorité politique. C'est-à-dire que la politique est totalement démonétisée, décrédibilisée. Les militaires n'ont plus du tout l'autorité suffisante pour porter leur uniforme. Même l'uniforme devient quelque chose de détestable dans l'espace public. Et une figure comme Desmond Tutu, ça génère de l'autorité. D'autres formes d'autorité.
Et une autorité par la parole. Un ministère de la parole. Desmond Tutu, c'est ça. C'est pas tant son pouvoir d'homme d'église, c'est très clairement la rhétorique, son art de manier une rhétorique qui articule étroitement la religion et le renouveau du politique. Donc, c'est effectivement une autorité de la parole. La justice transitionnelle, oui. je précise, c'est aussi une forme de justice qui est rendue quand l'État botte en touche, quand il confie à d'autres, à des membres dits de la société civile, le travail.
Est-ce qu'il pourrait faire autrement, l'État ? Est-ce qu'on peut faire autrement lorsque on a cet état de déroute symbolique totale, prenons l'exemple de l'Allemagne de 1945, par certains côtés, d'ailleurs je pense de manière un peu sauvage et en raccourci, à la situation de l'Église catholique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est affectée dans la puissance même de ce verbe dont vous parliez, Sandrine Lefranc. Sa parole n'a plus de crédit en raison de la manière dont elle a couvert des fautes, etc. Et où on retrouve cette dimension, quoi, ce bien précieux pour n'importe quelle communauté politique d'une parole d'autorité.
Parole d'autorité qui est tout à fait envisageable dans d'autres circonstances politiques. Il y a d'autres réponses à des situations de violence massive, de violence politique extrême et massive. Alors, je vais vous citer un exemple qui est un exemple discuté et contesté, celui du Rwanda, mais il y a des formes d'exercice de la justice qui s'appuient sur d'autres rhétoriques, sur d'autres cadres, sur d'autres histoires, sur d'autres récits.
Oui, c'est vrai, et je suis sensible au fait que vous réhabilitiez les gachacha qui ont été un peu méprisés par les juristes. Je parle en juriste, ou combien de papiers j'ai lu en disant oui, mais l'article 6, oui, mais les droits fondamentaux de la défense. C'est vrai qu'on n'en était pas là dans les gachacha, mais il y avait quelque chose d'authentique.
Oui, je sais bien que les gachacha ont été la cible d'un discours qui était celui
Vous pouvez dire en deux mots pour le.
Alors les gachacha, c'est quoi? Alors je peux effectivement renvoyer aux tribunaux sur le gazon. C'est une forme de justice qu'on dit traditionnelle, qui ne l'est en fait pas du tout. En tout cas, elle est très 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 largement rénovée par le gouvernement rwandais.
C'était pour des litiges fonciers.
C'est ça. Donc ça n'a pas grand-chose à voir. C'est le moyen qu'a trouvé le gouvernement rwandais. Je rappelle que le gouvernement rwandais est issu de l'armée des Tutsis qui a mis fin au génocide et dans le même temps pris le pouvoir. Ce gouvernement rwandais, constatant qu'il ne pouvait pas juger tout le monde, faute de juges, faute de tribunaux, faute de prisons suffisamment vastes pour accueillir une large partie de la population, a eu recours à une réinvention de cette procédure. La procédure, c'est quoi? C'est à l'échelle des villages et parfois sur le gazon, enfin littéralement dehors dans les espaces publics, c'est un jugement populaire, alors avec des juges nommés qui peuvent être les victimes, et c'est déjà quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on peut être un juge et être une victime, c'est totalement inimaginable pour nous, enfin avec nos cadres. Les juges nommés se prononcent en s'appuyant sur la parole publique, sur les témoignages des uns et des autres, se prononcent sur la culpabilité des génocidaires ou des complices de génocide. Et ça a été détesté par les ONG de défense des droits de l'homme les plus grandes, Human Rights Watch ou Amnesty International.
Et c'est là où on a vu les limites de leur tolérance, d'ailleurs, à ces ONG.
Ou en tout cas, leur difficulté à sortir d'un cadre étroitement juridique. Au fond, la justice transitionnelle, tout en restant critique, c'est une manière de faire avec les circonstances et de faire justice malgré tout, malgré les difficultés. Et les gachacha, c'était un exercice de cet ordre. Alors, on peut toujours crier en disant que sur le plan de la procédure juridique, c'est un scandale. C'est sans doute un scandale, mais c'est une manière de rendre compte du crime et une manière aussi de changer les rôles au sein des villages qui est intéressante.
Faire justice malgré tout, c'est une belle définition de la justice transitionnelle, mais la justice, pour être accomplie, elle a besoin de se terminer par quelque chose, par une peine et aussi par une réparation, par une tentative de restauration de la situation antérieure ou du moins d'une compensation pour les victimes, Sandrine Lefranc.
C'est l'une des difficultés, Antoine Garapon, du processus. C'est-à-dire que ce processus-là, cette volonté de donner la parole aux victimes, de leur dire, voilà, racontez-nous ce qui vous est arrivé, il était aussi adossé à l'idée qu'on en ferait une vérité, qu'on l'écrirait, qu'on la diffuserait. C'est un peu plus compliqué que ça.
Il y a des vérités, bien sûr.
Voilà. Et il était adossé à l'idée qu'on allait faire suivre cela de réparation. C'est, au fond, rarement le cas, en tout cas rarement le cas, à la hauteur des promesses qui ont été faites. En Afrique du Sud, on a divisé le montant promis par la Commission de vérité et de réconciliation par 5. Et donc, on en arrive à des réparations monétaires qui sont assez peu satisfaisantes.
Oui, source de frustration énorme.
Absolument. Alors, source de frustration, a fortiori, quand on constate que le développement attendu, la redistribution sociale attendue, ne vient pas. Mais même lorsque les politiques de réparation sont à peu près correctement menées, elles suscitent des frustrations. On a des études dans les villages colombiens qui le montrent.
Bien sûr, mais le cas de la Colombie était intéressant parce qu'en fait, en Colombie, c'est pas des réparations qu'il faut, c'est une réforme agraire, il faut une réforme de la terre, parce qu'il y a un accaparement des terres par les latifundios, par les grands propriétaires et par la guérilla, qui fait que c'est le déséquilibre profond, c'est une des causes de la violence en Colombie. Et donc, tant qu'il n'y aura pas de réforme agraire et où on restituera un maximum de propriétés, un maximum de petits paysans, peut-être contre une certaine logique économique, et ben on ne stabilisera pas le pays.
Nous convergeons, Antoine Garapon, elle est là, la rupture, sans doute, elle est plutôt du côté de l'ordre
social. Elle n'est pas voulue par le gouvernement.
Absolument. Et non seulement elle n'est pas voulue, mais vraisemblablement, ces outils de la justice transitionnelle, malgré leurs vertus propres, ils sont souvent utilisés pour justifier cette continuité.
Est-ce que vous avez vu, dans votre expérience, Sandrine Lefranc, des vérités, des commissions vérité et réconciliation qui vont jusqu'à identifier les racines profondes et qui vont très souvent affecter la répartition des ressources, de la terre, du pétrole, des diamants, etc., etc.
C'est une tension constante pour les membres de ces commissions. C'est-à-dire qu'on leur demande d'individualiser, de donner des noms, de nommer des personnes, mais dans le même temps, les membres des commissions qui sont indépendants de l'État souvent, ou en tout cas qui prennent leur indépendance, ont bien conscience, ne sont pas dupes de ce processus d'individualisation. Et par exemple au Pérou, la commission a été très fortement travaillée par le fait qu'elle ne pouvait pas se contenter de faire des listes de victimes et qu'il fallait mettre le doigt notamment sur des problèmes de réforme agraire.
Bien sûr.
Et donc, dans ces cas-là, la Commission propose des réparations qui sont des réparations communautaires. Non plus la réparation à la victime, la mère de famille qui a perdu son fils, mais des réparations au village.
Mais là, ce qu'il faudrait, c'est des réparations politiques. C'est-à-dire eh bien d'essayer de rééquilibrer, mais c'était le cas du Biafra, c'est le cas de d'Angola, quoi, c'est le cas de tellement de théâtres. Ma dernière question, qui est pas une question, d'ailleurs, qui est plutôt de savoir comment vous envisagez, Sandrine Lefranc, l'avenir de la justice transitionnelle. Est-ce que ça aura été une mode, mais est-ce qu'elle a marqué une époque qui était cette époque l'après 89, pour faire court?
Je suis pas sûre, parce qu'au fond, ça marque une époque qui est plus durable, qui est la nôtre. Quand on réagit aux attentats, quand on parle de traumatisme, on continue à vivre cette époque-là, on continue à attendre beaucoup des récits. Mais pour ce qui est des institutions de la justice transitionnelle, ce que je constate, je vais décrire plutôt, c'est qu'elles tentent aussi de mieux s'articuler à la justice pénale, et par exemple de penser des amnisties conditionnelles. On va exiger davantage de ceux qui bénéficieront de l'amnistie. Donc il va sans doute y avoir davantage de convergence entre la sanction à l'égard du coupable et le récit de la victime. Mais la justice transitionnelle, elle dit bien aussi notre rapport à la victime, aux victimes.
C'est ça. Et finalement, elle aura réussi lorsqu'elle sera intégrée dans la continuité du genre démocratique.
C'est ça. Et lorsque peut-être justice ordinaire sera faite.
Eh bien, merci beaucoup, Sandrine Lefranc.
C'est moi qui vous remercie, Antoine Garapon.
Matière à penser, Sandrine Lefranc, Manu Couturier, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Je vous donne rendez-vous demain avec Magali Besson.